Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc pour ce nouvel épisode de D'à l'ombre du festival, notre podcast d'entretien cannois chez Criticat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marine Atlan. Bonjour Marine.
Bonjour.
Donc Marine, vous êtes la réalisatrice de La Gradiva, votre premier long métrage qui est présenté à la Semaine de la Critique cette année. Donc on peut vous connaître d'abord en tant que chef opératrice sur des films comme L'Englouti ou Les Reines du Drame. Là, avec La Gradiva, vous venez directement à un film sur la jeunesse, c'est-à-dire que c'est un film qui suit une classe de lycéens en voyage scolaire à Naples, à Pompéi, etc. Sur la durée de ce voyage scolaire, donc un peu une semaine. Donc moi, ce que je voulais vous demander simplement au départ, c'est pour un premier film, donc, comment vous est venue cette impulsion, cette envie, ce désir de filmer directement la jeunesse ?
Alors à la base, j'étais en train d'écrire un autre film qui s'appelle L'Enfant Courageuse et qui est un projet sur la mémoire, sur les souvenirs, et que je sentais un projet complexe de mise en scène parce que pas du tout dans une chronologie linéaire. Voilà, je sentais qu'il fallait que j'ai des outils de mise en scène un peu plus déployés quoi, avant de m'atteler à ça, que le film m'échappait en fait, que j'arrivais pas tout à fait à le faire. Et on m'a proposé au début comme une commande, puis ça s'est un peu transformé après, de penser à un format de film fait vite avec une troupe d'acteurs et d'actrices jeunes, non professionnels, un peu dans la direction de Tous les garçons et les filles de mon âge, la collection Arte, qui a marqué moi ma cinéphilie, qui a été super importante. J'aime beaucoup les films sur l'adolescence, j'en ai regardé beaucoup. Et donc on m'a proposé ça, et très très vite, il y a une simplicité, une grande intuition qui est arrivé quoi sur ce désir de film d'aller amener une troupe d'adolescents et d'adolescentes sur les ruines de Pompéi et de se demander qu'est-ce que la trajectoire adolescente, sa vitalité, mais la trajectoire adolescente contemporaine quoi, qu'est-ce que ça allait produire à la fois esthétiquement et en termes de dramaturgie, de les amener dans des ruines qui datent de 2000 ans, devant des fresques, des sculptures. Voilà, qu'est-ce que ça allait produire ?
Nous, chez Criticat, du coup, un petit peu a priori, avant d'avoir vu le film, déjà, ce qui nous a un peu intrigué, c'était déjà sa durée. Parce qu'on s'est dit, un premier film, on voit 2h40, je crois, à peu près. Donc, c'était assez intriguant. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous... qui était un petit peu en vous, est-ce que c'était quelque chose que vous aviez déjà en tête de vouloir faire un film long, entre guillemets, déjà pour votre premier film, ou est-ce que ça s'est trouvé au fil de l'eau, j'ai envie de dire, pendant le tournage ou le montage ?
Je ne l'avais pas complètement anticipé. Ce que je savais, c'est que j'avais fait un moyen métrage, Daniel Fefas, qui faisait une heure, donc je sens que dans mon rapport à la mise en scène, il y a quelque chose quand même un peu de la durée qu'il faut éprouver, mais j'y allais un peu... Plutôt pas à pas quoi. Dans l'écriture, on a ce qu'on a senti assez vite, et je sentais que ça serait tout l'enjeu du film, c'est que la choralité, puisque c'est un film choral avec quatre personnages principaux, enfin un vraiment une trajectoire, mais d'autres autour quoi, ça demandait en tout cas, c'était un exercice complexe quoi, de créer de l'empathie sur un personnage, d'arriver à le suivre, à s'arrimer à lui, puis de changer, de créer de la digression, enfin voilà, je le sentais. Je sais aussi que j'ai une appétence pour le cinéma récréatif, les scènes longues, le temps pour rien, les scénarios aussi qui se sentent pas, des scènes pas trop narratives. Voilà, donc j'avais quand même pas mal d'éléments qui me faisaient dire que le film allait être long, mais j'en avais pas la certitude. Et en fait, quand j'ai vu L'Ours avec Guillaume Lillo, le monteur, de 4 heures, je me suis dit il va falloir travailler cette durée, ça va être un enjeu. Si le film fait une heure et demie, il sera réduit, il n'aura pas la densité, il ne pourra pas aller dans des espaces et des impressions où j'ai envie de l'amener. C'est un film sur l'héritage, il fallait pouvoir vraiment raconter le collectif, raconter l'ambivalence aussi de ces héritages, la complexité, et être porté, je pense, par quelque chose de tragique. Et pour ça, j'avais besoin de prendre le temps. Et après, ça a été des discussions. Inès, la productrice d'Ayandazi, elle a vu le film. Elle a vu une version longue Et elle a très vite, elle a compris en fait. Elle m'a dit, ok, je vois toutes les couches qu'il y a à mener, donc faisons-le. Je suis là, quoi. Elle m'a vraiment accompagnée. Après, voilà, ça a été des enjeux évidemment pour le marché, quoi. Faire un film de 2h30, c'est évidemment complexe. Mais moi, je préférais faire un film qui me ressemblait, qui ressemblait à ce que voilà, à ce que j'imaginais. Et je me disais, la durée du film va s'imposer quand si elle est juste. Mais du coup, ça nous a aussi obligés à être à s'armer, enfin à essayer vraiment d'être sans complaisance face à cette durée-là, quoi.
C'est vrai que nous, effectivement, ce qui nous a plu, c'est effectivement ce recours un peu à la scène longue, enfin un peu au bloc de durée. C'est quand même, parce que vous parliez tout à l'heure que vous aviez un autre projet qui n'était pas en narration linéaire. Effectivement, celui-ci, narrativement, est un petit peu plus linéaire, puisqu'on suit le fil des vacances, mais en fait, il est fait uniquement presque de bifurcations et de scènes de groupe d'abord, et puis petit à petit peut-être des scènes un peu plus solitaires ou à deux, etc., et qui s'étendent, quoi. Donc là, pour moi, pour nous, il y avait vraiment un enjeu un peu de sculpter un petit peu aussi, comme on voit des sculptures ou les architectures de la ville, etc.
Complètement. Moi, je pensais beaucoup à l'impressionnisme, au tableau impressionniste, l'idée de d'essayer de rendre compte d'un sentiment par touche de couleur, et que même si c'est parfois imparfait, ou que c'est ça qui est intéressant dans l'impressionnisme, par exemple, c'est que c'est pas il y a une volonté de réalisme. C'est ça tend vers le réalisme, mais c'est réaliste d'une manière plus fragmentaire, floue, évocatrice en fait. C'est l'idée d'évoquer des impressions. Et effectivement, je pense que sur le rapport au temps, j'aime avoir des blocs de temps, rentrer dans des scènes comme d'un moment, quoi, et que la vie est une succession de moments en fait. Et que la continuité, la trajectoire, elle apparaît avec la succession de moments.
Pour en venir en particulier du coup aussi l'un des grands faits du film, qui est la troupe d'acteurs et d'actrices, puisque effectivement le film repose aussi beaucoup sur eux que vous avez trouvé, sur leur présence, d'abord un peu leur présence en tant que groupe, parce que le film commence avec pas mal de scènes de groupe, et puis petit à petit, comme je disais, le groupe se disloque un petit peu, ou en tout cas on se concentre, on va un petit peu plus sur des échappées avec certains personnages. Moi, je voulais savoir déjà comment vous aviez trouvé ces acteurs-actrices qui marquent vraiment, notamment les principaux, par leur présence, quoi, par une certaine présence physique, etc. Et aussi comment vous avez travaillé les scènes de groupe avec eux, le rapport à l'improvisation, est-ce que vous réécriviez un petit peu le film pour eux de temps en temps, etc. Comment vous êtes adapté un peu à eux aussi.
Ouais. Alors déjà, il y a eu un travail de casting très long. La directrice de casting, c'est Julie Sokolowski. Après, il y a Alicia Cadeau qui a repris sur la fin pour des personnages. Mais Julie, voilà, a accompagné le film pendant 2 ans. Julie, elle a été actrice elle-même. Elle a un rapport au jeu très, très... très direct, on est très proche, je pense, dans notre sensibilité là-dessus. Et donc on savait, très vite, je lui ai dit, c'est l'enjeu du film, quoi, ces visages. Donc on a vraiment cherché à la fois des visages qui pouvaient être forts, dont on allait se souvenir, quoi, qui sont marquants, et en même temps qui ont une grande familiarité. J'avais envie, en constituant la classe, d'avoir... que ça évoque à chacun, à chacune, des souvenirs en fait de d'élèves et des figures comme ça. Et donc, long travail de casting où l'idée c'était surtout de voir comment les gens, les jeunes allaient, parler, bouger leur visage, comment ils s'éclairent ou pas, enfin quelque chose de l'ordre de la présence, pas de l'intimité. Enfin, c'était pas mon intérêt de connaître leur vie, ça je m'en fous. Mais par contre, comment ils investissent, quoi, leur présence. Et après, à la suite de ça, on sélectionne un peu des gens et on essaye des scènes qui ne sont pas du film, pour voir comment ils parlent, comment ils répondent aussi à la direction d'acteur. Donc on a choisi un peu les trois personnages principaux, enfin les jeunes en tout cas comme ça. Et après il y a eu, moi j'avais donc le désir de travailler avec ces trois personnes-là, et après il y a eu une discussion, donc ils ont lu le scénario, et par exemple sur les scènes d'intimité, il y avait des choses que Cola par exemple, qui joue Tony, ne se sentait pas de faire. Et donc j'ai réécrit un peu en fonction, c'est-à-dire je me suis dit je préfère faire le film avec Cola et réécrire parce que j'ai des moyens de mise en scène pour convoquer la sensualité, l'érotisme, enfin voilà, ça m'effrayait pas trop ça. Il y avait des choses auxquelles je tenais et je lui ai dit genre ça c'est, pour moi c'est important, voilà, ça ne bougera pas, mais voilà, j'étais un peu souple sur qu'est-ce que je pouvais montrer quoi, parce que je pense qu'on peut évoquer, enfin voilà. Et ensuite sur le texte, ça a été un travail en fait. Nous avec Anne Brouillet, la co-scénariste, donc on a fait de la recherche, on a fait des entretiens, on a vraiment écouté le langage adolescent, et pas, ouais, y avait des mots même qui ont changé en fait par rapport à moi, mon adolescence. Il y a eu tout un moment où on est parti en voyage scolaire, où on enregistrait beaucoup. Enfin, on a suivi un voyage scolaire d'une classe de terminale du lycée Turgot. Et on filmait, on enregistrait. Donc après, il y a tout un travail de retranscription pour voir voilà, comment même juste un dialogue se construit. Les choses ne vont pas trop vite. Dans un dialogue, souvent, ça prend il y a des digressions, en fait. Ou alors les choses se disent par sous-texte. Donc analyser quelle forme ça prend dans un groupe de jeunes, quoi. Avec vraiment un travail d'étude, ce qui nous a donné une version de scénario. Et ensuite, avec ce texte dialogué, on fait des répétitions, et on fait des répétitions de toutes les scènes. C'est vraiment, il n'y a pas une seule scène du film qu'on n'a pas répétée, que ce soit, j'en sais rien, moi, le restaurant, la fresque, le Vésuve, enfin, tout, quoi, le train. Et donc, c'est leur dire, c'est ça le texte, voir comment ça sonne, réécrire nous en fonction de qu'est-ce qui sonne bien ou pas. On se dit, ça ne sonne pas juste ce truc-là, on sent que c'est forcé, que c'est amené et tout. Et leur laisser la possibilité, notamment sur les grosses scènes collectives, d'improviser dans les répétitions. Ensuite, on observe les répétitions et on se dit, cette impro est géniale, elle répond à ça, on restructure avec les improvisations qui nous plaisent. On fait un texte, par exemple, pour la scène de la fresque, qui est beaucoup plus long, en fait, que la scène. Enfin, c'est-à-dire, je savais que je ne montrais pas tout, mais je leur dis, voilà, ça, c'est la structure, vous avez des points de rendez-vous. Vous savez que, je ne sais pas, quand James dit... Enfin, quand Mercier demande ce que c'est que le fascinus, vous savez que c'est les deux tiers de la scène, à peu près. Vous savez qu'on doit finir sur ce point-là avec Suzanne. Enfin, voilà, il y a des gros repères. Chacun connaît son texte. Et je leur dis, sur les premières prises, les deux premières prises, vous pouvez vous déborder. Et après, on revient de plus en plus à la structure nette... de la scène. Et donc et après en montage on a toute cette matière et à nouveau avec Guillaume on refait un jeu de structure, en fait on regarde tous les rushs et on se dit ça nous intéresse, ça c'est un peu raté, finalement ça marche pas, et on restructure tout, quoi. Voilà.
Et ce qui est assez intéressant, notamment dans ces grandes scènes de groupe, c'est la manière, du coup, tout au long du film, mais en particulier dans ces scènes de groupe, dont votre mise en scène paraît quand même attachée au visage, par exemple, attachée à saisir une expression, un regard, à la parole, etc., comme vous le disiez. Et notamment dans cette scène de la fresque, ce qui est assez beau, on trouve, c'est qu'il y a une espèce de circularité un peu de la caméra sur tous ces visages, et en même temps, sur la fresque, la caméra capte un petit peu des bouts de ça, et voire même parfois... Il y a quelque chose d'un peu composé où en même temps on va voir un pan de fresque, et comme une espèce de split screen presque, un pan de fresque d'un côté, un visage de l'autre. Et donc ça revient plusieurs fois dans le film. Il y a aussi des espèces de chorégraphies, je pense à la scène dans le musée avec les sculptures.
Le moulage, ouais.
Comment vous vouliez aussi peut-être mettre en relation un petit peu ces espèces de présence jeune comme ça, avec des choses antiques qui les dépassent complètement.
Il y a effectivement, vous parlez de visage, moi j'imaginais vraiment toute la première moitié du film, donc avec cette empreinte comme ça très réaliste, comme aussi un moment de parole et donc de visage très fort, enfin de frontalité des visages, quoi, de filmer vraiment les visages adolescents. Et de fait, de jouer à un jeu de miroir entre la fresque et les jeunes et ce qu'ils traversent, par exemple la fresque de la Villa des Mystères, c'est une fresque qui a été analysée des milliards de fois, il y a des livres et des livres sur cette fresque, c'est aussi quelque chose qui échappe, c'est ça qui est beaucoup raconté, c'est-à-dire il y a eu plein de théories différentes, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle évoque quelque chose de l'ordre de l'effroi, de la sexualité. Elle est troublante. Enfin, on y est à la fois hyper bien et un peu mal à l'aise. Enfin, et en fait, très vite, il y a eu évidemment un jeu sur ce qui circule entre les jeunes de désir, de sensualité, de pulsions scopiques aussi, d'observation des uns et des autres, et cette tension comme ça, oui, un peu sensuelle, quoi, et en même temps là, une forme d'effroi, de peur vis-à-vis de ça, et ce qui apparaissait dans la fresque. Mais ça s'est fait assez naturellement, enfin en tout cas, ça s'est fait notamment par leur prise de parole, c'est-à-dire que c'est les personnages en fait qui, en analysant, se racontent, quoi. C'est ce jeu-là aussi que je trouve beau. C'est ça qui est beau aussi dans une classe et dans la transmission, c'est que d'un coup, le regard de, je sais pas moi-même, d'Amaury, donc, qui est le personnage plutôt de droite, qui d'un coup parle de la couleur rouge de manière un peu naïve, bah, ça le raconte dans son rapport à la sexualité, quoi. L'idée, c'était de, au fur et à mesure que la trajectoire tragique avance, prendre de la distance, plutôt inscrire de plus en plus les corps plus que les visages dans ces espaces-là, et effectivement peut-être de glisser vers une mise en scène qui s'autorise plus le mouvement, plus le plan séquence aussi, et qui travaille plutôt de la chorégraphie plus que de la parole, donc par exemple un jeu de chassé croisé au musée où il y a un enjeu, il y a une tension entre James et Suzanne qui est faite des imaginaires, de la nuit qu'elle a passée, de son rêve. Et il y a comme sa perception d'un jeu de filature, en fait. Elle a l'impression que James la poursuit. Et d'un coup, il y a des échos entre cette immense statue qui la regarde et James qui la regarde, sorte de corps hyper puissant, un peu écrasant comme ça, comme si elle était scrutée. Et pareil, bah, Tony, le coup de téléphone au musée, c'est l'idée que ces personnages qui parfois sont un peu pathétiques, un peu triviaux, qui sont des personnages du commun, de la banalité, c'est ça qui m'intéressait, c'est vraiment des élèves de 17 ans avec leurs défauts, leur maladresse, leurs bêtises, parfois ils sont stupides, on le dit, ces personnages-là sont à un moment donné traités comme des personnages mythologiques puisqu'ils traversent des tragédies et des sentiments qui sont aussi grands en fait que toutes les histoires et tous les récits qu'on a pu nous raconter avant.
Oui, c'est ce qui est aussi forcément intéressant dans le film, c'est que le film organise quand même un glissement effectivement tout au long vers quelque chose de plus sombre, de plus grave, même si c'est déjà présent d'ailleurs dès la première scène, avec une espèce de sensualité très étrange, presque un peu mystérieuse dans la première scène, mais qui va ensuite être repris par les scènes de groupe, voilà, et qui va glisser vers quelque chose aussi de plus silencieux, etc., et de plus mystérieux, et effectivement, vous faites un peu, vous n'avez vraiment un peu pas peur, entre guillemets, de faire accéder ces personnages à une certaine dose de mystère aussi, parce que des choses sont expliquées un petit peu de pourquoi ils réagissent comme ils réagissent, etc., mais il y a aussi quand même des présences un petit peu mystérieuses, petit peu fortes, comme ça, moi, je pense à la présence de James, par exemple, qui attire tout le monde, en tout cas, il y a une puissance d'attraction un peu mystérieuse, quoi. Vous osez un peu aller là-dedans, quoi, dans des...
Oui, effectivement, James, par exemple, il a été vraiment, on l'a vraiment construit comme une figure androgyne, un jeune et faible, un peu presque, qui a une figure presque antique, et qui attire. Alors, je lui avais parlé. En fait, j'ai un peu renvoyé les trois dans des imaginaires de cinéma, mais notamment par leur incarnation. C'est-à-dire que pour moi, James, c'est un personnage qui va chercher du côté de Pasolini. Je lui ai montré Théorème, on en a parlé ensemble. On a travaillé vraiment plutôt sur le corps, sur sa posture, sur sa démarche, sur ses regards et tout. Alors que, par exemple, Tony, ça va plutôt chercher pour moi du côté de... Du nouvel Hollywood, de quelque chose de l'ordre de, je sais pas moi, du parrain, quelque chose un peu mafieux. On a beaucoup parlé d'un après-midi de chien, de ses allumettes. Et Suzanne, à l'inverse, elle est vraiment pour moi, elle a un truc un peu romérien, un truc de comme ça, de paroles un peu blanches, un peu claires, de figures. Et donc, Il y a l'idée, en tout cas, que par exemple James, c'est quelqu'un qui se construit tellement dans le rapport au désir des autres qu'il a quelque chose d'un peu évanescent, difficile à attraper, un peu une forme de fragilité. C'est comme s'il était un peu en l'air, quoi. Et d'ailleurs, c'est ça aussi son drame. Enfin, c'est-à-dire que c'est aussi, je pensais à Mort à Venise, par exemple, ces personnages sur qui on projette des fantasmes. Et je veux dire, la trajectoire de l'acteur de Mort à Venise raconte même ça de manière terrible, quoi. Quand on est une image comme ça de beauté, de projection, bah, c'est aussi violent puisqu'on a du mal à exister en fait, en dehors du regard des autres. Donc c'est quelqu'un dont l'existence, le personnage, son existence est sans cesse remise en question parce qu'en fait, il est surtout un vecteur de fantasmes, quoi. Et après, sur les autres personnages, l'idée c'est qu'ils avaient une intériorité effectivement forte, qu'il y a des choses qui pouvaient se dérober et qu'on prenne les choses pas à pas, mais sans les marteler. C'est-à-dire que par exemple, bah voilà, Tony, la scène du coup de téléphone à la mère, d'un coup il y a un hors-champ qui arrive par rapport, qui se passe pour moi, hein, sur le choix de l'actrice, de sa voix, un peu gracile comme ça, presque un peu jeune, enfin voilà, quelque chose qui est un peu aérien, dont on sent que c'est pas tout à fait ancré dans le sol. Et du coup, ça nous crée un imaginaire de ce que c'est que sa vie, en fait. Mais j'avais envie que les spectateurs et les spectatrices y soient au travail, en fait, là-dessus. Et que, en fait, moi, j'avoue que mon rapport à moi, de spectatrice, c'est quand je suis en avance sur un film, je m'ennuie. Enfin, j'ai besoin qu'on me donne déjà qu'on me laisse de la place, qu'on me donne de la curiosité et qu'il y ait quelque chose comme ça où je ne sais pas ce qui va se passer. Et c'était important, je pense, de créer des surprises, de se dire je pense à vous, spectateurs, spectatrices, on va aller de surprise ensemble, quoi.
Et donc le film effectivement suit des adolescents à une certaine période de leur âge, un âge charnière effectivement, parce que donc il y a ce glissement un petit peu malaise. Des 17 ans, des 18 ans, un peu vertige aussi de ce qu'il peut attendre. Et là, d'ailleurs, le film flirte un peu avec un côté inversant un peu politique aussi, puisque vous abordez un peu avec frontalité, c'est assez rare, je trouve, dans le cinéma français, la question, par exemple, de Parcoursup, puisque c'est pendant ces vacances-là que les résultats Parcoursup vont tomber et vous, en fait, vous aménagez quelque chose de très terre-à-terre, quoi, la question de Parcoursup, quoi, que les jeunes se posent, avec ce malaise existentiel plus gros. Il y a aussi ce très beau personnage du professeur qui, lui aussi, va ressentir un certain malaise et dont on sent qu'il vient aussi de sa condition un peu d'enseignante, de fatigue, etc., etc. Ça aussi, c'est quelque chose que vous vouliez glisser un peu.
Oui, effectivement, un premier désir du film, c'est de parler de la question de l'héritage, du déterminisme, de comment ces choses-là se jouent, à quel point elles sont systémiques, à quel point donc elles sont liées à une organisation sociale, et donc d'interroger déjà l'enseignement là-dedans, c'est-à-dire, mais ça aussi, aussi des discussions, quoi, avec des professeurs, c'est-à-dire c'est quoi ce vertige? D'un coup, quand on se rend compte que possiblement quelque chose auquel on passe sa vie, on dédie sa vie, c'est-à-dire la transmission, parfois est comme une goutte d'eau, en tout cas dans des trajectoires d'élèves, parce que le système est plus puissant, est plus violent, est plus clair, quoi. Et c'est aussi se dire, bon, on raconte beaucoup les transfuges, évidemment, ils existent, il faut raconter ces récits-là, mais parfois ça n'est pas le cas. En fait, les transfuges sont aussi des exceptions, donc parlons aussi du reste, et c'est-à-dire de gens qui ne s'émancipent pas parce qu'ils n'ont pas les outils pour le faire, parce que voilà, leur trajectoire rend ça impossible. Donc d'ancrer ça dans un rapport sociologique aussi. Voilà, j'ai pensé évidemment à Durkheim et ce qu'il dit sur le suicide, que c'est un fait social, que il ne s'agit pas d'une trajectoire individuelle, mais que ça s'inscrit dans une trajectoire collective. Je voulais raconter ça. Et effectivement, Parcoursup, par exemple, bon. Évidemment que c'est logique qu'il y ait des sélections, que tout le monde n'aille pas partout. Enfin voilà, c'est le système scolaire est fait comme ça. Mais par exemple, la mise en œuvre, c'est-à-dire ce site sur lequel on connaît son classement, le fait que les vœux ne soient pas hiérarchisés, donc c'est un flou aussi très grand pour les élèves. Ils ne comprennent pas, ils ont l'impression que se joue leur vie. C'est aussi un moment où à la fois on se dit que tout est possible, et d'un coup il y a des couperets comme ça qui tombent, qui sont presque définitifs. Et nous, effectivement, on a assisté au voyage scolaire auquel on est allé avec Anne Brouillet à un moment terrible, quoi, où à la fois il y a des gens qui sont en larmes et d'autres qui sont dans la réussite, et on désigne comme ça les individus en leur disant « vous êtes dans la réussite ». Et il y a vraiment une élève qui a dit en larmes « mais je vais être déscolarisée ». Et c'est quoi aussi d'un coup d'être sortie des institutions comme ça, d'être sortie du système ? Voilà, et c'était effectivement... c'était difficile à faire, dans le sens où c'était même difficile de prendre en charge le tragique comme ça. Enfin, je veux dire, mais je trouvais ça important qu'on raconte aussi que la vie est mal faite, en fait.
D'autant que ça se fait, enfin, c'est ça qui est assez beau dans le film, c'est que ça se fait pas vraiment par le discours, mais plus par effectivement cette scène de Parcoursup, par les réactions presque corporelles.
Oui, en fait, en tout cas, on a cherché des éléments concrets qui racontaient ça. Et c'était pas l'idée, c'est pas d'être de faire un tract, d'être voilà, d'imposer comme ça un récit, un discours, mais plutôt d'observer et de voir dans cette observation comment ça se joue et comment ça se passe, en fait, les trajectoires. Et moi, aujourd'hui j'ai 36 ans, je suis loin des 17 ans, et en même temps Je me souviens de mes amis d'enfance, de mes amis, enfin voilà, des trajectoires adolescentes autour de moi, et je peux observer en fait ce qui s'est joué maintenant, parce que j'ai du recul dessus, et donc c'est aussi de cet endroit situé dont je parle, c'est-à-dire 17 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est joué, qu'est-ce que j'ai pu voir se mettre en œuvre, et qu'est-ce qui était déjà là dans les trajectoires des groupes auxquels j'ai appartenu.
Bah écoutez, merci beaucoup.
Merci.
Il y a juste une dernière question qu'on a l'habitude de poser. C'est, bon, vous êtes à Cannes pour présenter votre film, donc vous n'avez pas forcément le temps, mais est-ce qu'il y a des films que vous aimeriez bien voir ?
J'aimerais en voir plein, mais effectivement, je n'ai pas le temps, mais j'aimerais vraiment voir L'Inconnu de Harari. Normalement, je vais aller le voir demain matin. Et Notre Salut d'Emmanuel Mare.
Ok, bah écoutez, merci beaucoup pour cet entretien.
Merci.
Et puis nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'À l'ombre du festival. Merci encore.
Merci beaucoup.